Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles, il s'achève ce vendredi sur les défis communs. Nous écouterons Sédic Abba, journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef à Jeune Afrique. 2500 à 3000 soldats français resteront déployés au Sahel après le retrait du Mali. Actuellement, 4600 militaires français sont présents dans la bande saharo-sahélienne, dont 2400 au Mali, selon le porte-parole de l'état-major. La relation avec la France prend une nouvelle tournure, selon le président algérien. Abdelmadjid Tebboune précise que les choses se sont tassées après la crise du mois d'octobre. 34% des foyers éligibles au RSA n'en font pas la demande, c'est ce qu'indique un rapport officiel. Les explications dans votre journal de Nadia Ogbani, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Toulouse. La grève à la RATP ce vendredi, la circulation des transports en commun est très perturbée. 8 lignes de métro sont totalement à l'arrêt, d'autres lignes ne sont ouvertes qu'aux heures de pointe. C'est un moment fort de la présidence française de l'Union européenne, le 6e sommet Union européenne-Union africaine jusqu'à cet après-midi à Bruxelles. Les questions liées à la sécurité, la santé et la stabilité sont les trois enjeux communs auxquels l'Europe et l'Afrique veulent s'attaquer pour changer la donne de leurs relations. Sédic Abba, journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique.
L'Union africaine et l'Union européenne ont une certaine proximité qui n'est pas simplement géographique. L'Europe et l'Afrique est le continent le plus proche de l'Europe et il y a aussi de communautés linguistiques. Beaucoup de pays africains sont d'anciennes colonies françaises, anglaises ou portugaises. Donc il y a une proximité et puis il y a aussi la longévité des relations d'échanges entre l'Afrique et l'Europe. Il y a aujourd'hui sur le continent africain quelques nouveaux acteurs. Mais le plus important, c'est de savoir que l'Afrique et l'Europe ont une longue tradition d'échange, ont une longue tradition de coopération et ont des dossiers, ont des défis en commun. La question migratoire, par exemple, est une question centrale. Et l'Europe a accompagné l'Afrique pour mieux maîtriser les flux migratoires qui partent d'Afrique vers les pays européens, y compris en essayant de créer des opportunités pour les jeunes Africains pour qu'ils restent sur le continent. Sur la question sécuritaire, par exemple, l'Europe est le premier partenaire africain, à la fois en finançant une force africaine en Somalie, la MISOM, en finançant aussi la force du G5 Sahel, souvent des financements qui sont importants quand même, s'ils sont de l'ordre de 100 millions d'euros pour chacune des forces. Donc il y a beaucoup de dossiers communs sur lesquels l'Union africaine et l'Union européenne travaillent. Et compte tenu du contexte de la pandémie, qui vient de se faire, l'Union européenne a offert d'accompagner l'Afrique et il est annoncé le renouvellement du partenariat entre l'Europe et l'Afrique à l'issue de ce sommet pour une hauteur d'environ 150 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années, c'est-à-dire d'ici à 2027.
Et justement, qu'a révélé cette crise sanitaire international concernant les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine et les relations entre les deux continents?
Le défi de la solidarité, parce que à la fois sur le plan économique, beaucoup de pays africains ont été durablement impactés par la crise, parce que malheureusement, l'Afrique est un continent où l'économie repose beaucoup plus sur des matières d'exportation. Le pétrole, le gaz, le coton, d'autres matières premières d'exportation, qui ont subi un contre-coup important du fait de cette crise sanitaire. Et l'Afrique attend de l'Europe un accompagnement justement pour l'aider à relancer ses économies. Également sur le plan de la solidarité vaccinale, beaucoup de pays européens, je pense notamment à la France et à d'autres pays, ont essayé de faire preuve de solidarité parce que malheureusement l'Afrique affiche aujourd'hui des taux de vaccination de l'ordre de 6%, en tout cas moins de 10%. Et alors que dans d'autres parties du monde, et sur ce plan aussi, l'Europe a offert d'accompagner l'Afrique et on attend de voir comment cet accompagnement va se faire. Il est même prévu, par exemple, qu'on aide un pays comme l'Afrique du Sud à installer des capacités de production de vaccins. Sur le plan aussi de l'environnement, comme on a pu le voir, à Glasgow, il n'y a pas eu d'accord entre l'Afrique et l'Occident. parce que l'Afrique n'a pas obtenu de garantie sur la mise à sa disposition de 100 milliards d'euros par an pour pouvoir faire face au changement climatique. Et là aussi, des pays européens ont pris des initiatives, notamment en faveur de l'Afrique du Sud, où l'économie repose quand même sur des énergies fossiles. Une grande partie de l'électricité est produite avec du charbon. Et là, des pays, la France, la Grande-Bretagne, des pays européens, ont pris des initiatives pour accompagner des pays africains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels l'Europe et l'Afrique sont amenés à travailler dans le contexte de cette crise sanitaire et dans le contexte aussi de la sortie de crise. L'après-pandémie a commencé déjà à être pensée par le continent européen et le continent africain.
Dans le contexte également de situations tendues dans certains pays, hein, l'Union africaine qui a suspendu le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan du Sud après des coups d'État.
Oui, exactement. La question sécuritaire et politique est au centre de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je pense qu'il s'agit plus de suspension de principe parce que l'Europe ne veut pas donner à l'Afrique un signal où on pourrait être amené à prendre le pouvoir par des mécanismes non constitutionnels. L'Europe a à cœur de soutenir l'Afrique, mais en essayant d'envoyer des signaux forts, notamment sur le plan du respect, de la nécessité de renforcer la culture démocratique, les traditions électorales, parce que au-delà de ce qu'on voit, l'Europe envoie beaucoup de missions d'observation des élections et fait beaucoup de soutien à des commissions électorales nationales en Afrique pour permettre la consolidation de la démocratie, de l'état de droit dans les pays africains. Ces suspensions-là sont justement destinées à ce message, mais elles n'éloignent pas l'Europe de sa volonté d'aider l'Afrique à avoir une meilleure sécurité, à lutter contre le terrorisme. On sait que, par exemple, un moment, contre la piraterie maritime au large de la Somalie, l'Europe a envoyé, des pays européens ont envoyé des troupes pour combattre cela, et aujourd'hui aussi au Sahel. Mais en suspendant le Mali, on le remarque, en se retirant du Mali, la France et les pays européens de la force Takuba ne quittent pas le Sahel. Ils vont s'installer dans des pays, notamment le Niger, pour continuer à accompagner l'Afrique parce que l'Europe a conscience, en tout cas c'est un des continents qui a le plus conscience que la sécurité en Afrique, c'est aussi la sécurité du reste du monde. Si on laisse l'Afrique sombrer, ça peut affecter la sécurité internationale. Et aujourd'hui, beaucoup de pays européens se battent pour que les Nations Unies soient plus actifs et d'autres pays, les États-Unis notamment, soient plus actifs dans la lutte contre le terrorisme et dans les questions de sécurité et de politique en Afrique.
Parce qu'il y a des acteurs influents, de nouveaux acteurs influents sur le continent africain, notamment la Chine et la Russie.
Oui, c'est exact. Et je pense que c'est à cela que l'Europe doit pouvoir jouer de ses atouts. Il y a la proximité géographique, la proximité linguistique dont j'ai parlé. Il y a la longévité de sa coopération avec l'Afrique. Tout ça, ce sont des atouts sur lesquels l'Europe peut capitaliser dans sa concurrence avec les nouveaux acteurs en Afrique. Aujourd'hui, le contexte africain a changé. Ce n'est plus l'Afrique où il n'y avait que l'Europe, où il n'y avait que les États-Unis. Vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé de la Russie. Il y a aussi la Turquie qui est en embuscade. Donc, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Mais, à mon avis, l'Europe a des atouts. D'abord, un des atouts de l'Europe, c'est sa capacité financière. Là, l'Europe sort un chéquier de 150 milliards sur les 5 prochaines années. C'est clair que ça lui donne un avantage. Et il y a aussi les autres atouts. Et l'Europe aussi peut, en plus de cela, je pense, des domaines où l'Europe a un avantage comparatif par rapport aux autres nouveaux acteurs. L'Europe a essayé depuis longtemps de prendre en compte la société civile en Afrique, qui est devenue un grand acteur. Par le passé, personne ne s'intéressait à la société civile. Mais aujourd'hui, la société civile, la jeunesse africaine, a une influence importante. Et le fait que dans certains programmes européens, qu'on mette en avant le numérique qui est un outil à destination de la jeunesse africaine, à mon avis, l'Europe a des niches sur lesquelles elle peut faire la différence par rapport à ses autres concurrents et l'Afrique ne demande que ça.
Sédic Abba, journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique, son prochain ouvrage en librairie dès le 11 mars prochain, Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation, chez Impact Éditions. Après que Paris et ses partenaires ont officialisé hier leur retrait militaire du Mali, cette précision de l'état-major des armées françaises, quelques 2500 à 3000 soldats français resteront déployés au Sahel au terme de leur retrait du Mali d'ici environ 6 mois. Actuellement, 4600 militaires français français sont déployés dans la bande saharo-sahélienne, dont 2400 au Mali. En Tunisie, malgré le décret présidentiel qui interdit les grèves des juges, les magistrats administratifs ont entamé une grève hier, un mouvement à l'appel de l'Union des magistrats administratifs et du Conseil sectoriel de l'Association des magistrats tunisiens au tribunal administratif. Cela après que le président Kais Saied a décidé le 13 février dernier d'interdire aux magistrats de faire grève selon le décret présidentiel qui porte sur la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et la création d'un conseil provisoire. La relation avec la France prend une nouvelle tournure selon le président algérien. Abdelmadjid Tebboune précise que les choses se sont tassées après la crise du mois d'octobre. Le président algérien qui indique que la dernière rencontre entre les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays a été très positive. Déjà au début du mois, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtam Lamamra, avait déclaré à des médias français que les relations entre les deux pays étaient dans une phase ascendante. Des contractuels d'électricité du Liban ont entamé hier une grève ouverte au sein des administrations de l'organisme, un mouvement pour demander une hausse des salaires dans un pays où la situation socio-économique et financière est catastrophique. En France, 34% des foyers éligibles au RSA n'en font pas la demande, c'est ce qu'indique un rapport de l'ADRES. Alors comment expliquer ce non-recours aux droits par les personnes les plus pauvres? Ce sont plusieurs milliards d'euros qui ne seraient pas versés. Les explications de Nadia Ogbani, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Toulouse.
Le rapport de l'ADRES, il permet de proposer une nouvelle manière de mesurer le RSA de manière régulière, ce qui est particulièrement intéressant parce qu'on n'avait pas des chiffres de manière régulière et du coup la production de chiffres ne nous permettait pas vraiment de voir l'évolution du non-recours. Il met notamment en évidence qu'on a un taux de non-recours au RSA de 34% en moyenne par trimestre, ce qui est quand même assez alertant et qui reste un taux de non-recours assez élevé, notamment pour un minima social. Et en fait, les chiffres qui avaient été produits en 2011 étaient de 36%, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment eu d'évolution et de diminution du non-recours au RSA.
Qu'est-ce qui explique qu'un tiers des foyers éligibles ne réclament pas le RSA?
Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une méconnaissance du RSA et de ses conditions d'éligibilité. Par exemple, on peut percevoir le RSA quand on est en couple et qu'il y a une des deux personnes qui travaille ou que les deux personnes travaillent mais pas à temps complet. Et on voit qu'il y a particulièrement de non-recours chez les personnes en couple, sans enfants notamment. Donc, qu'est-ce qui explique notamment le fait que les personnes ne soient pas au courant, ne s'identifient pas forcément comme public cible, et que finalement, il y a assez peu d'informations pour permettre aux personnes d'être mises au courant de leurs droits au RSA. C'est une problématique qui vient à la fois des institutions, qui seraient potentiellement en mesure d'informer les publics qui pourraient bénéficier du RSA, parce que là, on voit bien à travers cette étude qu'il est possible de les identifier, et aussi une difficulté de compréhension des prestations. Et puis après, il y a toutes les problématiques qui sont liées aux démarches administratives, qui peuvent également poser des soucis. Il y a un grand nombre de personnes, là, moi j'avais fait une enquête en 2010 puis en 2014 sur le non-recours au RSA, où il y avait des personnes qui souhaitaient percevoir une prestation, savaient qu'ils pouvaient en bénéficier, mais où la réalisation de démarches administratives était compliquée et où les personnes avaient besoin d'un accompagnement. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, est de plus en plus compliqué parce que on enjoint les publics à faire leurs démarches en ligne, et qu'on a encore un très fort taux de fracture numérique avec un certain nombre de personnes qui ne savent pas réaliser des démarches en ligne. Et donc, ça constitue une problématique supplémentaire, notamment parce que la dématérialisation a conduit à la fermeture d'un certain nombre d'accueils où on avait la possibilité d'être reçu par une personne compétente en matière de gestion des droits. Et que là, ça devient de plus en plus difficile d'être accompagné.
Pour que 100% des bénéficiaires aient accès à leurs droits, faudrait-il que le RSA soit versé automatiquement?
Alors déjà, il y a des problématiques politiques avec le fait que le RSA soit versé automatiquement. On voit bien que là, on a des capacités d'identifier les publics cibles. Le rapport de l'ADRES met bien en évidence qu'il y a des limites dans ces modalités de qualification, mais potentiellement, s'il y avait une automatisation des droits, ça permettrait effectivement de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent bénéficier du RSA. Donc, en ce sens, ça permettrait effectivement de lutter contre la pauvreté, puisque on a une aggravation des situations de pauvreté liées au non-recours au RSA. Mais il faudrait pouvoir automatiser ces 100% de bénéficiaires et, en l'occurrence, on a encore des difficultés à les identifier entièrement. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait constituer une avancée, mais encore faudrait-il que les pouvoirs publics souhaitent lutter contre la pauvreté et permettre aux personnes d'accéder effectivement à leurs droits. Mais c'est pas pour autant sûr que ça permettrait de toucher tous les bénéficiaires potentiels.
Nadia Ogbadi, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Toulouse, elle répondait à Loïc Barrière. La grève à la RATP ce vendredi, 8 lignes du métro parisien sont fermées, 6 autres lourdement touchées. Les lignes complètement fermées sont les 2, 3 bis, 5, 7 bis, 8, 10, 11 et 12. Outre la 3 entre Affre-Commartin et Gallieni et la 6 entre Charles de Gaulle-Étoile et Bercy, les lignes 3, 4, 6, 7, 9 et 13 sont ouvertes uniquement aux heures de pointe de 16h30 à 19h30. D'importantes perturbations sont aussi en cours sur le tramway. Seule la ligne T8 circule normalement. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Ella Kribi Ramdan, conseillère régionale du pôle écologiste au Conseil régional d'Île-de-France, porte-parole de Génération et soutien de Yannick Jadot, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.